et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans son temple avec reconnaissance, dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon et son amour durera toujours. De génération en génération, il reste fidèle. Louons-le.
Alors, comme mise en bouche, nous allons chanter deux chants pour la gloire du Seigneur qu'on va enchaîner. Toi seul es digne et à l'agneau de Dieu.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans ta présence, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Thank you.
à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil vainqueur. Les êtres qui autour de ton tour, à l'agneau de Dieu, soit la gloire.
Je t'appelle.
enfants ouvrent leur cœur à ta parole, et vraiment qu'ils puissent jouer fraternellement ensemble. Nous bénissons les moteurs, c'est la patience et le cœur pour vraiment partager ton amour, Seigneur. Amen.
Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Je pense que nous serons au point avec ce chant-là quand nous serons à peu près aussi essoufflés que Thierry à la fin. Et que pour une première fois, peut-être, nous toucherons le plafond. Là, il y a encore un peu de marge, mais on peut encore s'entraîner, n'est-ce pas ? Je vous invite à prier. Cher Seigneur, on est reconnaissant d'être ensemble, reconnaissant de pouvoir te célébrer, te louer, t'adorer. Parce que tu en es digne. Nous ne voulons pas passer à côté de cela. Tu en es digne. Merci pour l'Église que tu bâtis, pour la portion de cette Église que nous représentons. Nous te disons, Seigneur, viens nous visiter, s'il te plaît. Viens nous parler, viens nous encourager. Tu sais où nous en sommes dans notre vie et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je me souviens bien des interventions de ce frère, cher frère, ce frère de l'église où j'ai grandi, à Genève, à la rue de la Servette. Nous avions des assemblées générales. Et les débats dans les assemblées générales étaient souvent longs. Particulier quand j'avais 15-16 ans, je trouvais ça. Alors longs et en plus les avis étaient partagés. Et ce frère s'impatientait parfois. Pourquoi toutes ces discussions ? Pourquoi on n'écoute pas simplement le Saint-Esprit ? On entend ce genre de choses parfois quand il s'agit d'organiser en Église une assemblée générale, un colloque, comme on dit chez nous, un colloque. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Pourquoi ces contraintes administratives ? Pourquoi une liste de membres ? Pourquoi ces discussions ? Pourquoi ces actumérins à répétition ? Pourquoi toutes ces choses humaines alors que nous marchons avec le Saint-Esprit, non ? Ça devrait rouler tout seul. Pourquoi ? Alors à cela, il y a une réponse logique et puis il y a une réponse biblique. La réponse logique, c'est que tout ce que nous faisons sur terre est intrinsèquement humain. Le monde matériel fait partie de notre condition humaine. Nous nous organisons avec des compréhensions, disons-le franchement, plus ou moins proches de la Bible. Nous tenons en tension des nécessités et des valeurs. Mais quel que soit notre langage spi, nous sommes toujours des humains. Et à ça, on ne peut pas échapper. Nous sommes humains. Nous habitons un corps, nous habitons des maisons, nous préparons notre retraite, ou nous la vivons déjà. Nous nous organisons humainement. La façon de faire va bien sûr varier d'une culture à une autre, mais ce sera toujours humain. Pourquoi des assemblées générales ? La réponse logique, c'est que c'est profondément humain. La réponse biblique, elle est un peu plus difficile à trouver, parce que nous avons seulement des indices. On trouve dans le Nouveau Testament la trace de la nomination de responsables. On trouve aussi dans le Nouveau Testament une liste de veuves. qui bénéficie du soutien d'une église locale. Dans l'évangile de Matthieu, dans les deux lettres aux Corinthiens, il est question de personnes qui ne peuvent plus faire partie de l'église. Parce que leur comportement est tellement en contradiction avec l'évangile qu'il est plus possible que ces gens fassent partie de l'église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui signifie, quand on a une telle liste, que l'on sait qui fait partie de l'église et qui est seulement un sympathisant ou un visiteur de passage. Derrière ces détails, il y a pour moi un principe général important. Je le lis en 1 Corinthiens 14, versets 33 et verset 40. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Veillez à ce que tout se passe convenablement et non dans le désordre. Convenablement. Comment savoir ce qui est convenable? Ça va changer d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre. Et du coup, certains aspects de la vie de l'Église, y compris l'organisation de nos cultes, sont déterminés par des habitudes et une culture dans laquelle on baigne. Rechercher ce qui est convenable, c'est donc vouloir éviter le bins, éviter le désordre. Et dans notre pays, en Suisse, cela implique que la vie de l'Église respecte certaines règles associatives. Michaela.
J'ai juste une question parce que, en fait, c'est assez théorique. Et du coup, j'ai besoin que ce soit un peu plus concret.
Ouais,
et du coup, j'ai des questions par rapport à ça. C'est qu'est-ce que. Est-ce que vraiment être ensemble, c'est quoi? Et être ensemble dans un même corps d'église, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste être une colocation ou est-ce que c'est vraiment une union?
Ah ouais, être ensemble, une colocation ou une union? C'est une super bonne question. Toi, tu as une idée là-dessus?
Bah, avant de donner mon avis, j'aimerais bien...
T'aimerais bien entendre... Ouais, moi aussi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. C'est quoi concrètement être ensemble?
Il y a des personnes qui ont une idée ou qui aimeraient partager quelque chose, un sujet. C'est vrai qu'une colocation... Enfin, moi, je n'ai pas vécu de colocation, mais j'ai vu des films comme L'Auberge espagnole et des choses comme ça.
Ah, ouais.
Où on voit que finalement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Il y a quand même des points litigieux comme comment est-ce qu'on partage le frigo, la salle de bain. Après, sa chambre, on l'organise comme on veut, mais le reste... Oui,
le fait d'être ensemble, ça demande beaucoup d'efforts, mais si on s'aime, on va essayer de faire. Moi, j'ai des colocataires souvent. C'est difficile, c'est des épreuves, mais c'est une bénédiction. Alors, je pense que Dieu me demande de continuer à accueillir malgré quoi, parce que lui, il est avec moi. Et c'est ça, être ensemble. Et dans l'Église, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe ici, mais je suis là parce que c'est l'Église à laquelle je appartiens. On a le même Dieu, mais on a beaucoup de choses qui sont différentes, bien sûr, mais ça n'empêche pas d'être là malgré.
C'est intéressant. Le côté de bénédiction, tu le vois comment?
C'est mettre en question beaucoup de choses dans la colocation, je parle. Par rapport à ma façon de faire, de voir, d'aimer, faire... Il faut mettre de l'eau dans mon vin souvent.
Mettre de l'eau dans son
vin. Mettre de l'eau dans son vin, oui. Ouais, c'est pas très bon, hein, de l'eau dans le vin. Mais, mais effectivement, on voit très bien qu'on apprend beaucoup des autres et puis il faut avoir cette humilité d'apprendre aussi des autres et qu'on n'est pas meilleur que les autres.
Être ensemble, c'est aussi être profondément unis par le Saint-Esprit et vivre la paix, la joie ensemble. Et c'est un miracle du Seigneur.
Wow.
Merci. Wow. Oui.
Tu parles de ensemble ou union. Je pense qu'une union, c'est une union de personnes qui partagent quelque chose de profond ensemble. Je fais partie d'une union dans le cadre de mon métier. On partage un métier. En fait, on ne parle que de ça. du bois, etc. Est-ce qu'être ensemble, je vais faire une course dans les bois de la Versoix, je suis ensemble avec beaucoup de personnes, on aime la course, mais disons qu'on n'a pas ce contact, comme dans une union, on essaie de partager, de promouvoir quelque chose.
Moi, j'ai juste une question, dans une union, si on prend peut-être l'union suprême qui est celle d'un couple, comment on fait quand on n'est pas d'accord ? Ah ben, je vois qu'il n'y a peut-être pas qu'à nous que ça arrive. Ah ouais, on partage.
On partage. Chez nous, ça va pas mal.
Merci de partager.
On partage.
Alors, il faut se mettre d'accord, en fait. Ah. C'est un peu ça. Ouais. Toujours la même qui a raison, d'accord. Ok, on voit. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, quand on... Bah, typiquement, un couple, c'est intéressant, c'est de se mettre d'accord sur certains principes. Moi, j'ai connu un jeune couple, l'un était vaudois, l'autre genevoise, qui ont essayé de faire un papé vaudois ensemble. Ben, il n'était pas bon la première fois, parce que chacun avait son idée du papé vaudois, et puis il a fallu se mettre d'accord sur quelle était la recette la meilleure.
Vous y êtes arrivé ?
Tu parles de moi ? Du couple ? Bon, y arriver, oui. Celui de ma femme était meilleur.
Yes.
Mais voilà, c'est les goûts. Donc, effectivement, les goûts, c'est facile de se mettre d'accord. Il y a un moment donné, mais c'est quand même plus compliqué quand on est plus nombreux, parce que déjà à deux, c'est pas simple. Mais quand on est 100, 150, 200 ou autres, se mettre d'accord, c'est vrai que c'est pas simple. Alors c'est vrai que pour revenir sur le sujet ou ton introduction, tu parles de colloque, d'assemblée générale. C'est vrai que notre église, elle fonctionne en association, donc il y a des règles à respecter. Voilà, il faut faire des assemblées générales, faut tenir des comptes. Donc on a un trésorier, on a un conseil, et ainsi de suite. Donc il y a toute une structure qui peut paraître assez rigide, mais du coup c'est aussi une manière de pouvoir avancer. On a des statuts, des dispositions internes. C'est des éléments sur lesquels, à un moment donné, il a fallu se mettre d'accord. On peut les faire évoluer, mais il faut quand même une base qui est là, qui permet de savoir où est le fil rouge qui nous conduit à vivre ensemble.
Ouais.
Alors, je ne sais pas s'il y a des exemples bibliques pour un peu répondre à tout ça.
Alors, je pense qu'il y en a un qu'on va voir dans quelques instants, mais juste en deux mots, chez nous, Johan, Le colloque, comment ça se fait ? Il y en a un bientôt, ce Ferreur ?
Alors, il y en a un vendredi prochain. C'est pas mal parce qu'on peut commencer les annonces. Non, non, je ferai à la fin. Effectivement, un colloque, typiquement le colloque de la semaine prochaine, c'est l'occasion de valider des comptes. Alors, ça paraît très formel, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on voit ce qui est rentré comme argent. Et ce qui est rentré, c'est la participation de chacun. C'est pas un organe autre ou un État qui nous subventionne, c'est purement ce que chacun donne. Et puis de savoir comment est-ce qu'on le dépense, dans quelle activité, ce que nous coûte le bâtiment, ce que nous coûte le pasteur. toutes ces activités, voilà, c'est important de se rendre compte que même si c'est très formel, c'est des chiffres, ça paraît très humain, presque comme si on était dans une entreprise. Mais ces choses-là, il faut se mettre d'accord, il faut voir comment c'est dépensé, comment est-ce que ça s'est validé, les contrôles qu'on met derrière aussi pour qu'on dilapide pas l'argent de manière cachée et haute, mais que ça soit vérifié. Donc on a des vérificateurs au compte. Et tout ça, c'est important de l'avoir. Et ces colloques, ça permet aussi de voir ce qui est fait et la vie au travers de chiffres. Alors en l'occurrence, les chiffres, c'est au mois de mars. Après, il y a d'autres colloques qui sont sur la vie de l'Église ou sur des sujets différents qu'il faut aborder et puis qu'il faut faire avancer.
Je voulais juste aussi revenir sur le fait de... Pardon, j'ai un peu la gorge qui gratte. Revenir sur ce que Paul Robert a dit avant. Pour moi, c'est important aussi d'être ensemble, de ne pas juste être là le dimanche matin, mais de vraiment s'impliquer dans la vie de l'Église, mais aussi nous, entre nous, de réellement partager ce qu'on vit en fait, au quotidien avec Dieu au niveau de la foi. et pas juste on est ensemble à une course dans la ville, quoi. Enfin, c'est vraiment ensemble et aller dans la même direction dans tous les domaines de l'Église, dans tous les aspects de l'Église. Pour moi, c'est super important.
La question des débats en colloque, elle se pose. Hein. Elle se pose clairement, la question des débats en colloque. Et moi, j'aimerais ce matin, en accord avec le Conseil, on a préparé ensemble ce culte, j'aimerais vous donner un exemple biblique de colloque que je trouve très parlant. En fait, le colloque qu'on va voir, c'est le genre de cas où nous aurions pu nous attendre à ce que des apôtres, inspirés de Dieu, disent un coup de cuillère à peau ce qu'il faut faire. Nous aurions pu espérer une parole prophétique, une parole directe, indiscutable. Nous aurions pu penser que le rôle du chrétien lambda serait simplement de se soumettre. Mais voilà, c'est bien plus fin que ça, parce que et la Bible et celui qui l'a inspiré sont bien plus fins que ça. Deux mots sur le contexte, et puis on écoutera la lecture du texte biblique. Le contexte, c'est qu'un problème majeur a surgi à Antioche et dans bien d'autres églises. Il faut organiser alors une grande réunion à Jérusalem, une assemblée générale, un colloque, pour essayer de trouver une ligne de conduite qui va être valable pour les églises chrétiennes toutes nouvelles. Et à la fin de ce processus, l'Esprit donne une direction claire. Alors on va écouter le récit. Je vous invite à être attentif aux enjeux et à la façon dont le Saint-Esprit a conduit les choses. C'est un récit là un peu long, mais on va l'afficher. Et puis essayez de vous imprégner de cette lecture. On le trouve en Actes 15, les versets 1 à 31.
Quelques hommes descendirent de la Judée à Antioche et donnèrent aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Paul et Barnabas les approuvèrent et eurent une violente discussion avec eux à ce sujet. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres personnes d'Antioche iraient à Jérusalem pour parler de cette affaire avec les apôtres et les anciens. L'Église leur accorda l'aide nécessaire pour ce voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant comment ceux qui n'étaient pas juifs s'étaient tournés vers le Seigneur. Cette nouvelle donnait une grande joie à tous les croyants. Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, par les apôtres et par les anciens. Et ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Mais quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent en ces termes. Il faut circoncire les croyants non juifs et leur commander d'obéir à la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question.
Après une longue discussion, Pierre intervint. Compagnons de foi, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous il y a longtemps pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît le cœur des humains, a attesté qu'il les accueillait en leur donnant l'Esprit Saint aussi bien qu'à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous. Il a purifié leur cœur parce qu'ils ont cru. Maintenant donc, pourquoi défiez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un fardeau que ni nos ancêtres ni nous-mêmes n'avons été capables de porter ? Nous croyons au contraire que nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus, de la même manière qu'eux.
Alors, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes extraordinaires et tous les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez ceux qui ne sont pas juifs.
Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole. « Compagnons de foi, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu est intervenu parmi les peuples du monde pour choisir parmi eux un peuple qui lui appartienne. Et les paroles des prophètes s'accordent avec ce fait. Car l'Écriture déclare « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai les ruines et je la redresserai. » Alors tous les autres humains chercheront le Seigneur, oui, tous les peuples que j'ai appelés pour qu'ils m'appartiennent. Voilà ce que déclare le Seigneur qui a réalisé ses projets connus depuis longtemps. C'est pourquoi, ajouta Jacques, j'estime qu'on ne doit pas créer de difficultés aux personnes non-juives qui se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur ceci. Ne mangez pas de viandes impures provenant de sacrifices offerts aux idoles. Gardez-vous de la débauche et ne mangez pas de la chair d'animaux étranglés ni de sang. Car depuis les temps anciens, des gens proclament la loi de Moïse dans chaque ville et on la lit dans les synagogues à chaque sabbat.
Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent Jude, appelé aussi Barsabbas, et Sylvain, deux hommes influents parmi les croyants. Ils les chargèrent de porter la lettre suivante.
Les apôtres et les anciens, vos compagnons de foi, adressent leurs salutations aux frères et sœurs d'origine non juive qui vivent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que des gens venus de chez nous vous ont troublé et inquiété avec leurs paroles. Nous ne leur avions donné aucun ordre à ce sujet. C'est pourquoi nous avons décidé à l'unanimité de choisir des délégués et de vous les envoyer. Ils accompagneront nos très chers amis Barnabas et Paul qui ont risqué leur vie au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Sylvain qui vous diront personnellement ce que nous vous écrivons ici. En effet, l'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Ne pas manger de viande provenant de sacrifices offerts aux idoles, ne pas consommer de sang, ni de la chair d'animaux étranglés. Vous gardez de la débauche. Vous agirez bien en évitant tout cela. Portez-vous bien.
On prit alors congé des délégués qui se rendirent à Antioche. Ils y réunirent l'assemblée des croyants et leur remirent la lettre. On en fit la lecture et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait.
Merci. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Le verset 1 le dit. L'église d'Antioche est en proie à une grave division et les autres églises de Galatie aussi. Le conflit, il porte sur la place de la loi de Moïse dans la vie chrétienne. Ça, c'est le conflit. Pour le dire simplement, Paul et Barnabas ont enseigné que juifs et non-juifs sont sauvés par leur foi en Christ et que les traditions juives ne s'imposent pas. Mais d'autres viennent dire que c'est faux, que Paul et Barnabas se trompent, que tout le monde doit respecter la loi de Moïse. La circoncision pour les hommes, le sabbat, les règles alimentaires pour tous et la séparation d'avec les païens. Il y a donc dans cette église un grave conflit sur la doctrine, pas sur le sexe des anges, pas sur la durée du culte ou la longueur des jupes, mais sur la doctrine, sur le moyen d'être sauvé et de faire église, d'être ensemble. Un salut atteint par l'observance des lois et des traditions juives. Un style de vie qui vous coupe du reste du monde, ou un salut ouvert à tous et toutes, par la foi en Christ et qui permet un large contact avec le monde. Tous unis dans l'Église, quelle que soit l'origine, le genre, les traditions de chacun, de chacune, ou tous unis à condition de devenir juifs et autorisés. Dans les églises de la Galatie, autour de ces questions, c'est la division. L'Église pourrait imploser ou exploser. Et l'élan missionnaire est profondément remis en question. Parce que si on écoute les judaïsants, les païens du monde entier devront franchir des obstacles énormes pour rejoindre le corps de Christ, pour rejoindre l'Église. La division, c'est le scandale suprême. Mais apparemment, il y a encore pire que la division pour ce colloque d'Église. C'est l'annonce d'un faux évangile. Si l'évangile est enrichi de traditions, c'est un faux évangile. Si l'évangile est allégé de ce qui en fait le cœur, c'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est un faux évangile. Que l'évangile soit enrichi ou qu'il soit allégé, c'est un faux évangile. L'église d'Antioche est partagée, elle pourrait exploser. Comment discerner la volonté de Dieu dans ce cas précis? Il n'y a pas eu de parole céleste pour trancher la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il décide donc que le problème doit être traité en concertation avec les apôtres et avec l'église de Jérusalem. Ils organisent donc une assemblée générale à Jérusalem, un colloque. Michaela,
j'ai encore toujours des questions. Réflexion. Désolée. Mais en fait, ce passage des Actes est super précieux et important. Mais pour que moi, ça me rejoigne, je suis obligée de me poser des questions. Enfin, me poser la question de la dernière fois que réellement j'étais en désaccord avec une personne, c'était quand? Et que ce soit dans l'église ou en dehors, évidemment. Et combien de temps est-ce que cela me prend généralement pour régler ce désaccord?
Il ne faut pas que tu aies trop vite, c'est super important comme question. Alors, tu veux les répéter tranquillement, ouais. Puis on se donne 15 secondes de réflexion après chacune de tes okay. deux questions.
Alors, c'était quoi? Ah oui, la dernière fois que réellement j'étais en désaccord avec une personne, c'était quand? Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église?
On s'arrête 10 secondes, juste pour réfléchir pour soi. La dernière fois que j'ai été en désaccord avec quelqu'un, c'était quand? Juste 10 secondes de réflexion.
Et puis, combien de temps cela me prend généralement pour régler mes désaccords? Et quelles sont les raisons pour que cela prenne du temps avant que ça s'arrange?
On peut peut-être poser la question à la retournée. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? C'est toujours difficile, les désaccords. Enfin, moi, ce que je trouve difficile dans le conflit ou désaccord, c'est déjà de les avouer. Des fois, on a tendance peut-être à les esquiver ou ne pas voir qu'il y a un conflit, parce qu'on n'a peut-être pas les armes pour le résoudre. Très humainement, hein. On n'aime pas les conflits. Et puis, j'ai l'impression que dans un milieu chrétien, on pense que le conflit n'est pas bon, il devrait pas arriver, alors qu'on reste humain et le conflit ou le désaccord, je préfère parler de désaccord parce que, en fait, ça veut dire qu'on n'est pas accordé. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un piano pas accordé. Nous, on va le faire accorder prochainement parce qu'on s'est rendu compte que...
C'est mal aux oreilles.
Ouais, on se rendait pas compte. Bon, peut-être qu'on devient vieux puis on entend moins bien, mais ça sonne faux. Et en fait, il faut juste que ça sonne juste pour que ça aille bien. Et ça permet d'ouvrir souvent la discussion. Mais on a souvent pas les armes. Comment le faire? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé des conflits ou des désaccords. Et comment est-ce que vous le vivez? C'est vrai, finalement, comment est-ce qu'on le vit? Et puis, Sur combien de temps ça dure?
Alors, je pense que je suis le seul ici, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de désaccords avec beaucoup de gens.
Jean-Pierre.
En fait, je crois que c'est plutôt l'inverse, l'exception. Parce que dès qu'on se met à discuter de point de vue, j'ai souvent... je suis un peu un idéaliste, irréaliste.
Ils n'entendent pas ici.
Je suis idéaliste et irréaliste. La marche du monde, l'économie, la politique, ou la famille. Mais en fait, j'ai remarqué dans mes désaccords, c'est très souvent que je ne suis pas assez bien renseigné sur pourquoi il y a eu des choix et quels choix. Donc en fait, c'est souvent une question de communication. Et je dois dire que la communication, ça s'apprend en fait.
Je pense que c'est vraiment le maître mot, effectivement, la communication. C'est vrai qu'on vit dans une société où on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer, mais par contre, la communication est de plus en plus mauvaise. On s'enferme dans des canaux de communication et on voit, enfin moi je l'ai vu professionnellement, des échanges d'emails qui montent en puissance où finalement on écrit en majuscules et en rouge. On agrandit la police pour montrer qu'on est fâché. Et j'ai quelques collaborateurs, des fois, j'ai dit, mais prenez le téléphone, vous appelez la personne. Parce que dans les échanges, quand on est en dehors de l'échange, on voit ce qui ne va pas. Puis on dit, mais ils font exprès ou bien? Et il prend le téléphone, c'est réglé en 5 minutes, et il renvoie un email conformément à notre discussion, patati patata. Ouais. Et tout est réglé. Donc c'est vrai que la communication est importante.
Absolument. Je pense qu'il y a le désaccord, où on n'est pas d'accord sur un certain point qu'il faut régler, et puis il y a le conflit. Et ça, c'est autre chose. Le conflit peut venir d'un désaccord qui monte, comme tu viens de l'expliquer, que ce soit en église ou ailleurs, et puis il y a le conflit. Et le conflit, il faut le régler, et ça peut prendre du temps. Ça dépend si c'est une personne, si c'est un groupe de personnes, si c'est dans une église. Des fois, il faut prendre le temps de prendre du recul, etc., peut-être d'écrire aussi, de s'humilier, je ne sais pas comment dire, pour que la personne puisse comprendre que... Enfin, nous, on est chrétiens, on parle de l'amour, hein, et cet amour doit transparaître même dans le conflit, je ne sais pas comment le dire. Voilà, moi, ça m'arrive quand même assez souvent d'être pas tout à fait d'accord avec tout le monde, mais j'essaye de le vivre. Une des difficultés au colloque, c'est de s'exprimer. C'est de dire ce que tu ressens au fond de toi.
Ouais.
La dernière fois que je me suis exprimé, je tremblais à la maison avant de venir ici. C'est quand même quelque chose de... Et pourtant, on est entre frères et sœurs. On a peur du que dira-t-on, etc., d'être marqué à vie de quelque chose sur le front. Voilà, c'est un peu des choses que j'ai vécues et que dans cette communauté, et voilà. Donc c'est des choses qu'il faut aussi en parler. Mais il y a le désaccord, on n'est pas d'accord sur un point. Alors, je ne parle pas de celui qu'on est en train de prendre sur la circoncision, etc. Ça, c'était grave, comme tu dis. Et puis, il y a aussi le conflit qui, lui, alors, doit être réglé. On doit avoir tous tendre vers la résolution du conflit et s'humilier ensemble quand il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
David demande la parole.
Je trouve que c'est plus facile d'exprimer un désaccord dans le milieu professionnel, dans le milieu politique, dans le milieu quand on est sur ce genre de terrain que dans l'Église. Et honnêtement, je trouve que c'est difficile d'exprimer correctement son désaccord dans l'Église. Et pour moi, c'est une difficulté de trouver le bon chemin pour arriver à le dire avec amour, mais qu'on le dise, et puis surtout qu'on le règle ensemble sans se brasser, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile.
Est-ce qu'il y aurait des solutions? Oui. Dieu peut nous aider.
Quand ce qui est désaccord, parce qu'on a des avis différents, des conceptions différentes, c'est encore relativement simple, on peut discuter. Mais il me semble qu'on a souvent, dans, probablement ailleurs aussi, mais spécialement dans les milieux chrétiens, des affrontements de personnalités qui parfois se cachent sous des conflits théologiques, mais qui sont en fait des conflits de personnalités. Et c'est beaucoup plus délicat à résoudre. C'est un travail de longue haleine. Et parfois, on a besoin de l'aide d'une tierce personne pour nous aider à se parler, et un travail sur soi-même pour comprendre pourquoi on a tel type de réaction vis-à-vis de telle autre personne, pourquoi telle personne se sent agressée par des choses qu'on dit sans avoir l'impression de les agresser. Voilà, c'est toutes ces... Je pense que Dieu nous aide, mais on a un travail, on a besoin les uns des autres aussi pour ça.
J'apprécie vos remarques, hein. elles font écho non seulement au texte biblique qu'on médite, mais à, hélas, quantité de situations vécues, pas forcément ici, hein. Voilà, 20 ans de carrière pastorale, on en voit des vertes et des pas mûres. Et je trouve important les éléments que vous avez soulevés. D'abord, c'est pas toujours évident de définir ce qui est de l'ordre du désaccord et du conflit. Dans la situation présente, on est à la croisée des deux, hein. On a un vif désaccord qui pourrait vite devenir un conflit. Et puis, il me semble qu'ici, une des pistes, et j'y reviendrai en conclusion, c'est que ces gens se parlent. Il y a des étapes, il y a une discussion. Dans les versets 4 et 5, on a une première étape dans la discussion. Paul, Barnabas, les autres délégués d'Antioche sont accueillis par l'église de Jérusalem. Ils sont accueillis par les autres apôtres, par les autres responsables. Et Paul et Barnabas racontent leur voyage. Et ils racontent la conversion de nombreux païens. Et alors, d'autres interviennent pour soutenir le point de vue traditionnel, comme quoi les païens doivent devenir des juifs. Donc on est dans une discussion. Et les convictions de part et d'autre sont fortes. Les échanges sont vifs, dit le texte, vifs dans l'Église. Et cette première réunion n'aboutit pas. On organise donc une deuxième réunion, verset 6, cette fois seulement avec les apôtres et les autres responsables de l'Église. Et à nouveau, dans cette réunion qui ressemble à une pastorale ou à un conseil, les avis sont partagés. Et le verset 7 de notre texte parle d'une violente discussion. Ah ouais, faut pas être idéaliste. L'Église, elle est profondément humaine. Des fois, ça peut être chaud bouillant. Ce qui veut dire qu'ici non plus, ben, y a pas eu de voix céleste pour les diriger. Il n'y a pas eu de voix humaine qui a fait autorité. Il y a eu une longue discussion, puis une vive discussion, dit le texte. Et finalement, lors de ce deuxième colloque, il y a deux interventions déterminantes et une conclusion. D'abord, il y a Pierre qui se lève. Pierre, il va venir raconter sa propre évolution, en particulier depuis la conversion de Corneille, un païen, un romain. Puis Paul et Barnabas interviennent à nouveau pour raconter leur ministère parmi les païens. Ils rappellent comment les païens se convertissent. Et enfin, il y a Jacques, le frère du Seigneur Jésus, qui fait une proposition de synthèse. Il rappelle ce que Dieu a fait, il cite un célèbre texte biblique de l'Ancien Testament qui est très clair, à savoir la conversion des nations est prévue, elle est annoncée, les gars, il ne faut rien bloquer, faites gaffe à vos traditions pourraient bloquer l'expansion de l'évangile. Et Jacques propose à ce moment-là une conclusion, une démarche qui va sauvegarder la doctrine du salut pour tous en Christ et qui va protéger en même temps l'unité de l'Église. C'est une synthèse. Après discussion, la décision des apôtres et des responsables de Jérusalem est, selon le verset 5, unanime. Après discussion, unanime. Est-ce que c'est la fin ? Pas encore tout à fait, il y a une troisième réunion. Au verset 22, nous lisons qu'une décision est prise par toute l'Église. La conclusion des apôtres et des responsables, elle est communiquée à l'ensemble de l'Église. Une Église qui approuve et qui s'associe à la démarche. Sans doute que dans l'Église, il doit rester quelques mécontents. Mais la lettre des apôtres peut dire ceci, au verset 28. Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires. Et ce qui était nécessaire, ce n'était pas des obligations rituelles de la loi de Moïse, comme la circoncision ou le sabbat, mais une éthique sexuelle chrétienne. Abstenez-vous de la débauche. Nous, on lit ces mots rapidement, mais ce que ça dit clairement, c'est qu'on s'abstient d'une éthique sexuelle qui ne serait pas selon la Bible. Et pour favoriser la communion fraternelle, on respecte la sensibilité des Juifs au sujet de la nourriture. À partir de là, l'unité des chrétiens est sauve et la mission parmi les païens l'est aussi. Le Saint-Esprit a veillé sur l'Église. Mais les hommes se sont donné de la peine pour se parler, pour s'écouter, pour échanger, pour partager leurs divergences. Ça a été chaud à certains moments, vif, violent. Mais en fin de compte, le Saint-Esprit a veillé sur l'Église. Michaela.
En fait, tu as déjà répondu un peu à ma question, mais je me suis posé la question de qu'est-ce qui me guide lorsqu'il y a un désaccord. Et en fait, ce qui devrait me guider, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qui me guide lorsqu'il y a un désaccord? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'urgence de la justice? Ou bien est-ce que je préfère me taire parce que j'aime pas les confrontations et que je me dis que en fait, c'est le temps qui va m'aider à ce que ça passe, en fait? Et avant de laisser la parole aux autres personnes, moi je sais que ce qui me guide avant, enfin je sais que le Saint-Esprit est avec moi, mais ce qui me guide en premier quand il y a un conflit ou quand il y a un désaccord, c'est que j'ai besoin d'être libérée en fait. Et j'ai besoin de régler le problème et dire tout de suite que je suis pas d'accord et ça va pas, ce qui se passe. Parce que j'aurais l'impression que ça va me travailler toute la journée ou toute la nuit ou comme ça. Du coup j'ai besoin que ce soit directement en fait mis sur la table. Ouais. Voilà. Mais après, peut-être...
Mis sur la table. Donc, on parle des choses.
Ouais.
Alors, moi, j'ai aussi besoin de dire que je ne suis pas d'accord. Je crois que Philippe, il sait. Mais j'ai aussi dû apprendre que je n'avais pas toujours raison. Et que je ne pouvais pas... Disons, ce que je comprends... je n'ai pas à l'imposer aux autres. J'ai besoin de le dire, mais je crois pas que le Seigneur me demande de l'imposer aux autres. Donc, je suis en paix par rapport à ce que je crois, où j'en suis dans, parce que je parle de la parole de Dieu, hein. Je suis en paix par rapport au chemin où j'en suis. Et puis l'autre n'est peut-être pas sur le même chemin à ce moment-là. Mais en tout cas, ma décision, c'est que je ne voudrais jamais imposer une rupture ou une division. On a vécu ça dans une église et les dégâts que ça fait, c'est tellement un contre-témoignage que je crois que c'est important. Et quand Philippe disait, moi je crois que la clé, c'est quand même le Saint-Esprit qui arrive à nous laisser en paix.
Dans ce qu'elle peut dire, Gabriela, effectivement, moi, la colère, c'est quelque chose qui me parle, parce que c'était la première chose qui me venait à l'esprit quand j'étais contrarié. Donc c'est vrai quelque chose qui me prenait. Et là, le Seigneur m'a vraiment fait grandir là-dessus. Mon mariage aussi, sinon j'aurais pas tenu longtemps, je pense. Et le sentiment d'injustice, c'est la deuxième chose aussi tout de suite qui me vient à l'esprit, notamment au travail en fait. Quand Ouais, je suis témoin d'une injustice. C'est quelque chose. Là, c'est plus la colère, mais vraiment, je peux tout arrêter. Et ma journée changeait complètement pour résoudre ce point-là, parce que voilà, c'est quelque chose qui va me travailler. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui. Ouais, t'as visé juste Gabriella sur les deux points, en tout cas.
Anne a dit qu'elle avait dû apprendre qu'elle n'avait pas toujours raison. Moi, il y a une époque où j'ai dû apprendre que c'est pas parce que l'autre était en désaccord que j'étais toujours en tort. Moi, j'avais toujours tort. Si l'autre n'était pas d'accord avec moi, c'est que je pensais faux. Donc, c'est aussi un chemin qui est difficile d'oser dire ce qu'on pense. Et une autre chose, c'est le Saint-Esprit et nous. Parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je ne l'ai jamais entendu. Hein. Alors, c'est difficile de savoir ce que veut le Saint-Esprit, comment il nous dirige, et finalement, c'est quand même nous qui décidons. C'est pas quelque chose qui se fait malgré nous, c'est quelque chose qui se fait avec nous, et on n'est pas des marionnettes, on a une intelligence, on a une sensibilité, et on est partie prenante de cette histoire. Voilà.
Finalement, il y a quand on parle du Saint-Esprit, c'est peut-être aussi ce qui fait notre foi, c'est-à-dire qu'on recherche quelque chose. Il y a le verset qui dit « Gardez les yeux fixés sur Jésus ». Ben, c'est peut-être inconsciemment quelque chose qui nous rassemble, parce que dans le fond, on oublie nos désaccords pour regarder ce qui nous unit, et c'est peut-être ça qui est important. C'est vrai, quand on a dans un couple, la personne a toujours raison. Il faut apprendre à ne pas avoir raison.
Oui, moi, je viens dans une église méthodiste. Ça veut dire que la plupart des méthodistes, c'est interdiction de guitare. Et puis, c'est comme un peu satanique. Et puis, quand je rejoins la jeunesse mission, on est plusieurs, pas la même église, mais il y a l'Assemblée de Dieu qui sont beaucoup plus dans la guitare, et pas nous tous. Et puis quand j'étais avec le bateau, on était 32 nationalités.
Ouais.
Et puis beaucoup, c'est beaucoup pas, c'est les Américains. Et puis les autres, c'est les New-Zélandais, Australie. Et puis après, on est tous un groupe. Et puis quand je me suis converti, je pensais que tout le monde est 100% d'accord avec tous. Et ça m'a, comme je suis entré dans un mur de glace, qu'il y avait un bagarre, même en mission.
Ouais.
Et puis et puis heureusement, on a les départements, mais le conflit déjà par à chaque pays, nation, c'est déjà là. Et puis ensuite peut-être plutôt le désaccord de la dénomination de différentes églises.
Ouais, les dénominations.
Et puis l'église en Californie, ouais, sont pas la même chose que les églises le centre aux États-Unis. Et puis les Européens sont différents aussi. Et puis interdiction de l'alcool, ça c'est clair. Et puis voilà, mais comment on arrive parce que qu'on arrive jusqu'à pour arriver à continuer, c'est impressionnant, c'est un miracle.
Oui, oui.
Ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-Pierre sur le fait d'apprendre à se connaître. Souvent, on est mal informé sur les autres cultures ou les personnes, hein, culture, c'est pas forcément d'un pays à l'autre, hein, c'est d'une famille à l'autre. On a des habitudes et on est sur notre mode de fonctionnement et on comprend pas pourquoi l'autre réagit d'une certaine manière. Et ça peut amener des désaccords, voire même des conflits.
Et je pense qu'un des défis qu'on peut se poser en Église, alors on va pas prolonger excessivement ce matin, mais quelque chose à garder en mémoire, à mon avis, c'est de réfléchir à ce qui pourrait venir mettre à mal notre unité et notre témoignage. Il vaut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui, 2023, venir mettre à mal notre unité est notre témoignage? Ça, c'est une vraie question. Et je n'ai pas forcément la réponse. Je pense avoir quelques pistes, mais peut-être quelque chose une fois à mûrir en colloque, en forum, que sais-je. J'aimerais tirer juste quelques applications pour conclure. Quelques applications de ce récit. D'abord, je veux dire que le Saint-Esprit a conduit les choses en conformité non seulement avec les Écritures, ce qui avait été annoncé, et ce qu'il est. Donc, le Saint-Esprit ne se contredit pas. Il agit en accord avec les Écritures et avec ce qu'il est. Et ce qu'il est défini par les fruits de l'Esprit. Il me semble insoutenable de dire « Le Saint-Esprit me permet d'agresser mon frère ou ma sœur. » Le Saint-Esprit me permet à moi d'être déloyal. Le Saint-Esprit me permet à moi de critiquer derrière le dos de l'Église. Le Saint-Esprit me donne raison à moi contre tout le monde. On n'est pas dans les fruits de l'Esprit. Et ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Et il faut être attentif à ça. Il y a d'autres éléments encore. Par exemple, on pourrait noter que le processus ici est laborieux. Il a pris du temps. Le temps, c'est coûteux et c'est exigeant. Barnabas et Paul ont fait un long voyage. Il y a eu à Jérusalem 3 réunions, 3 longues discussions. On serait parfois tenté de croire qu'avec Dieu, les choses sont toujours simples. Eh ben non. Pas toujours. Rarement. La foi, ce n'est pas prendre des raccourcis. La vie d'Église, c'est parfois attendre, réfléchir, mûrir, se donner de la peine, chercher le consensus, pas tourner le dos, pas caricaturer, prendre le temps. Et je retiens ici que dans les décisions que nous devons prendre en Église, nous devons être prêts à prendre le temps qu'il nous faut, dans la discussion, la mise en commun, le partage et la patience. On pourrait noter ici aussi combien l'unité de l'Église était importante. L'unité de l'Église. Il fallait là la préserver. Il ne s'agissait pas d'imposer une décision par voie hiérarchique, ni même d'imposer une décision par une majorité simple, 50% plus une voix. Il fallait réunir dans une même décision, dans un même élan, le plus de chrétiens possible. Il fallait un très large consensus. Je ne suis pas là pour ma pomme. Je suis là pour le bien d'une communauté et la gloire de Dieu. Ce qui implique que certains ont dû écouter les différents arguments pour finalement changer d'avis. Au début du processus, il n'y avait pas d'unanimité parmi les responsables. Mais à la fin, elle est là, unanime. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit le proverbe. Eh bien, je crois qu'il n'y avait pas trop d'imbéciles dans l'église de Jérusalem, mais des gens capables de réfléchir et d'évoluer, de s'écouter les uns les autres et d'écouter l'Esprit. Et je crois qu'il n'y a pas trop d'imbéciles dans l'église de Mérin. On est capable de le faire. Quand nous pensons à notre église, à ses projets, à nos envies, nous pouvons commencer avec toutes sortes d'idées différentes. Mais notre souhait, c'est que dans la prière et dans la discussion, avec des temps de réflexion, nous arrivions à un très large consensus. À partir de là, nous sommes tous solidaires. Ensemble, c'est tout. Nous voulons que notre équipe gagne. Nous devons donc jouer collectif. L'Église, ce n'est pas du golf ou du tennis. C'est une équipe de foot. Pour marquer des buts, il faut jouer collectif. Pour défendre, il faut jouer collectif. Et c'est cela, entre autres, que la Bible appelle la soumission les uns aux autres. La crise, elle est résolue dans Acte 15 et de fort belle manière. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Non. Parce que discerner la volonté de Dieu a été pour l'Église un tremplin pour une nouvelle phase de croissance de l'Église. Dès la fin du chapitre 15 et jusqu'au chapitre 28, le livre est remuant. Et depuis Acte 28, L'histoire du livre des Actes, elle continue avec acte 29. C'est nous. Nous y sommes. Avec pour responsabilité de prolonger l'état d'esprit, l'unité de l'Église et l'en avant missionnaire. Ça marche ensemble, sans jamais les opposer, mais en jouissant de l'une, l'unité de l'Église, pour progresser vers l'autre, l'en avant missionnaire. Je conclus. Le Créateur du monde nous parle, il parle aux humains. Jésus-Christ, parole de Dieu, devient un simple homme. Il vit, il meurt comme un homme pour notre salut. Il ressuscite, il s'assied à la droite de Dieu, d'où il règne et d'où il bâtit son Église. Le Saint-Esprit vient sur nous. Il vient en nous, comme promis, pour prolonger l'œuvre qu'il a commencée. Et dans notre humanité, par son intermédiaire, Dieu agit encore. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Notre prière avec le conseil, c'est que nous puissions le dire. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Le dire vendredi prochain, bien sûr, lors de notre colloque, mais le dire aussi dans la vie courante de notre Église et dans les relations que nous entretenons ensemble. C'est tout. Amen.
On vous propose maintenant un temps de Sainte-Cène, en toute simplicité, ensemble. Ce qui fait l'unité, notre unité. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on va le prendre, vous viendrez chercher devant. On le fera aussi avec ordre, pour pas que ça soit dans le désordre. Et puis pour l'introduire, on va juste lire 1 Corinthiens 10, versets 15 à 17. Si tu peux mettre la slide, Roxane. Du 1 Corinthiens 10. Non, c'est 10. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain.
Nous prions. Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer, c'est pourquoi je veux t'adorer. Et ouais, c'est ce que nous voulons aussi nous rappeler au moment de prendre la scène. Et oui, merci pour parce que tu es un Dieu de paix. Tu n'es pas nous avons parlé d'ordre et de désordre, mais voilà, c'est la paix, c'est l'ordre dans l'amour. Dans l'amour qui est décrit justement dans 1 Corinthiens 13, juste avant le passage que nous avons lu. Et ouais, que ce soit une caractéristique de notre communauté et dans nos vies aussi, que nous puissions refléter cette paix que tu nous proposes en Jésus-Christ. Amen.
Alors j'invite le conseiller à venir devant. Et puis, on va faire comme ça. C'est qu'on va commencer par le fond. Vous venez, vous passez ici. Le mieux, c'est de prendre de faire un passage comme ça, c'est plus simple. Et puis, s'il y a des personnes qui ont de la peine à se déplacer, peut-être que votre voisin peut vous aider. Encore une fois, on est là pour s'entraider dans les difficultés aussi. Vous connaissez le principe sur les plateaux, donc les petits gobelets roses, c'est le jus de raisin, le reste c'est du vin, et on vous invite au fond à venir, et puis ensuite les rangs de devant. Et vous pouvez prendre tout de suite, on ne va pas attendre de prendre tous ensemble, vous pouvez prendre tout de suite.
Après avoir partagé le repas du Seigneur, nous voulons, comme dessert, chanter la joie d'être unis dans le Seigneur avec deux chants. Nous sommes une maison et une seule Église.
Un nouveau jour se réveille pour ceux
cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, pour nos différences, à votre joie et médisance, que la gloire du diable soit mise en lumière, de leur fière façon tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un sauveur, et pour nous être offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi, au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule église. Et c'est nous de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront les fêtes et ensemble l'adorer. Alors viens maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ici, l'amour qui nous unira. Non qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu.
Merci au groupe Louange de nous avoir accompagnés dans ce temps. Merci à toutes les personnes qui participent et qui permettent que ce culte, tous les cultes puissent avoir lieu. C'est tout un travail d'organisation, quelque chose qui est bien réglé, on peut dire bien huilé aussi. Et comme toujours, c'est, si ça fonctionne, c'est parce que vous vous impliquez. Et comme l'avait dit Michaela avant, c'est, bah, l'Église, ce n'est pas que ce matin, c'est toute la semaine, et c'est ce qui fait aussi l'unité au travers de différentes activités que nous pouvons avoir ensemble. C'est que l'occasion aussi d'apprendre à se connaître au travers de différentes activités, et notamment pour l'entretien du bâtiment. Vous avez d'ailleurs pour l'occasion, pour ceux qui veulent rejoindre les groupes nettoyage, parce que ces groupes, c'est pas qu'un groupe, hein, c'est travailler ensemble pour une famille. Et dernièrement, on a vu Claire Lise qui s'en occupe et qui gère ça avec une rigueur exemplaire. Rappelez ce qui a été décidé en Église en 2005 d'entretenir ce bâtiment par nos propres forces et nos propres moyens. Et donc vous avez l'occasion à la sortie de vous inscrire. Grosso modo, c'est trois fois dans l'année avec le tournus des groupes. Et donc c'est un moyen aussi de rencontrer d'autres personnes et puis d'apprendre à connaître d'autres personnes qui ponctuellement peuvent terminer par une bonne bière au restaurant du coin ou aller faire un petit apéro, mais c'est un moyen aussi de s'intégrer. Dans le reste des annonces, parce qu'on y est, ben, je vais laisser la parole à Paul Robert et je continuerai ensuite.
Je ne l'avais pas dit, mais tu devais y penser. Nous n'avons qu'un seul but, nous sommes une seule église, c'est de proclamer le salut de Jésus-Christ, on vient de le chanter. Voilà, il est là, un quart d'heure pour l'essentiel. Ce journal qui propose à nos amis, nos concitoyens, tous les frères en humanité, comme on dit, les sœurs en humanité, de rencontrer Jésus. Je l'ai lu entièrement, y compris toutes les annonces, toutes les réclames et tout. Pas du tout de prosélytisme, plutôt un journal qui vraiment veut ne cache pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Alors, on vous propose de le distribuer largement autour de vous. J'en ai commandé beaucoup, 1000. Alors, on va faire une distribution tous ensemble le samedi 1er avril ici, à Mérin Village. Vous pouvez vous inscrire sur le panneau. Plus on est, plus on pourra écarter, ouvrir de Mérin Village, passer au Verger, à Champfréchet, au centre commercial ou ailleurs. Vous pouvez aussi, bien sûr, décider de faire une petite distribution, d'en prendre, il y en a, hein, pour faire une petite distribution dans votre quartier, dans votre place, dans votre village. Bien sûr, vous pouvez en prendre aussi beaucoup, je l'ai marqué dehors, pour en prendre 5, 10, 15, 20, pour mettre dans les boîtes aux lettres chez vous, distribuer à vos amis, vos collègues de travail, vos collègues de gym, enfin partout là où vous pouvez le donner. C'est notre but, c'est d'annoncer Jésus et son salut, parce que nous en sommes bénéficiaires. Si on le dit pas, c'est comme si on a une source, comme dans l'Oasis qu'on a chanté, où on boit, et puis à côté, il crève de soif. Et on ne dit rien. Alors, je vous encourage à distribuer ce journal et à vous inscrire pour le 1er avril, pour, ensemble aussi, après avoir nettoyé, aussi distribuer cette, et dire cette bonne nouvelle dans les rues. Et c'est simple. Ce journal, il est aussi dedans, avec Anne-Béatrice, on s'est amusé à coller toutes les étiquettes offertes par l'Église évangélique de Mérin. Donc c'est fait, vous n'avez qu'à le prendre, à le donner, même sans rien dire. Hein, dans une boîte aux lettres, c'est sans rien dire. Mais les gens, ils ont une référence. Ils peuvent, si jamais, on ne sait pas. Voilà. Pour ma part, je vais faire tout mon quartier de villa. J'espère en mettre quelques centaines dans les boîtes aux lettres. Voilà. Alors on vous encourage.
Qu'est-ce que vous pensez, on peut les mettre dans les boîtes aux lettres où c'est marqué pas de publicité?
Non, personnellement, je l'ai déjà fait donc d'autres fois. Quand c'est les partis politiques et tout, vous avez le truc. Moi, j'en reçois. C'est marqué pas de publicité, et je pense que c'est pas une publicité. Même si des fois ça contrecarrie, contredit ce qu'on dit, je pense que même cette bonne nouvelle est plus importante que pas de pub dans la boîte aux lettres. Quand c'est pas de pub, c'est vraiment pour ces pubs qui reviennent pour X choses. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pas commercial. Hein. C'est vraiment donner cette bonne nouvelle. Voilà ce que moi je pense et comme j'agis.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a eu un interview de Serge Carrel dans Radio Air cette semaine où le président disait qu'on pouvait pas.
Ouais, il y a quand même de la publicité dans le journal. Et beaucoup de publicité quand même. À votre propre conscience, il n'y a pas de mot d'ordre de l'Église. C'est votre conscience qui doit vous parler. Je pense que c'est ce qui est important. On n'est pas un parti politique où on prend une décision là-dessus. À votre bonne conscience. Je pense que les mots qui ont été transmis et les choses qui ont été discutées doivent résonner dans vos cœurs. Oui.
Je voulais juste dire, il faut peut-être faire attention, disons qu'il n'y a pas deux ou trois fois les mêmes dans les mêmes boîtes, parce qu'il y a déjà des voisins qui m'ont dit « Ah, moi j'ai reçu deux fois ». Donc, est-ce qu'il faudrait un peu essayer de trouver qui met où pour ne pas...
Le faire avec ordre. Ça résonne, hein, aujourd'hui. Mais je pense que pour le Robert, il veille. Après, on ne peut pas empêcher... des personnes de manière individuelle qui ne font pas partie forcément de notre Église, de le distribuer. Donc, effectivement, on peut le retrouver dans de boîtes aux lettres. Mais Paul Robert veille à ce que ça soit fait avec ordre. Oh ben heureusement. OK, pour cette semaine, mardi 21, donc la prière communautaire ici à l'Église à 20h15. Mercredi 22, cet été, groupe de jeunes de notre église pour les 15-25 ans à 19h pour un before et puis la soirée entre 20h et 21h30. Ensuite, vendredi prochain, comme on en a parlé ce matin, il y aura un colloque, donc vendredi 24 mars à 20h15 ici à l'église. Vous avez reçu l'ordre du jour, et puis des documents qui sont venus s'ajouter, notamment en ligne, où vous pouvez consulter les derniers documents qui vous aideront pour les discussions et les différents votes. Ensuite, dimanche prochain, un culte ici avec Radio Réveil, qui seront à la prédication, mais aussi à la présentation du travail qu'ils font. Et puis, encore deux éléments, donc la partie finance. Vous savez que l'Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonctionne uniquement grâce à vos dons, que vous pouvez faire, exercer au travers de la petite boîte qui est au fond, ou Twint, ou par versement bancaire. Et puis, tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'avoir un repas communautaire ou repas canadien, pour ceux qui connaissent mieux. Et puis, voilà, c'est pour les plus gourmands, effectivement. Et puis, juste à la sortie, on vous a préparé un petit apéro. Donc, comme le café était offert ce matin, il n'y a pas de café après, mais des boissons diverses et variées pour partager un moment de convivialité si vous ne voulez pas rester. Sinon, vous êtes les bienvenus au repas canadien. Il faudrait quelques personnes pour aider après pour le repas canadien pour mettre en place, et on compte sur votre générosité physique, si je puis dire ça comme ça.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction que j'emprunte à l'apôtre Paul. Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humble, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Allez dans la paix. Très bon dimanche et à bientôt.